Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. César Yao.
Bonjour à tous, les titres de cette première édition. Les épreuves écrites du BTS 2023 ont démarré hier lundi au lycée classique d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique Adama Diawara a demandé aux candidats la sérénité tout en les invitant d'éviter toute forme de tricherie. 56 214 candidats des filières industrielles et tertiaires sont en lice. À Daloa, dans le Haut-Sassandra, a eu lieu une cérémonie de commémoration en hommage aux militaires disparus. Au cours de celle-ci, il a été demandé à la jeunesse de se souvenir des sacrifices consentis par les aînés pour bâtir la Côte d'Ivoire et à maintenir une relation de confiance avec l'armée. Nous en saurons un peu plus avec notre correspondant sur place, Jean-Noël Kouamé. Dans l'actualité internationale, les juntes burkinabées, maliennes et guinéennes mettent en garde contre toute intervention militaire au Niger. Arthur Banga, docteur en relations internationales et en histoire des stratégies militaires, décryptera d'ailleurs les sanctions de la CEDEAO. Francis Kassi passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour et puis en fin d'édition, ce roi Adam se recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cocody, il portera son regard sur le deuxième sommet russe-afrique avec un accent sur les retombées attendues du dit sommet pour les pays africains. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, éducation, formation en ouverture de ce journal BTS, brevet de technicien supérieur 2023. Les épreuves écrites ont été lancées hier lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique au lycée classique d'Abidjan. 56 214 candidats des filières industrielles et tertiaires sont en lice dans 130 centres répartis dans 17 villes du pays. Le point avec Carlos Kouandé.
Épreuves écrites qui s'achèvent le jeudi 3 août prochain ont démarré par la composition de techniques d'expression française. Après quoi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur les consignes qu'il a données aux candidats, professeur Adama Diawara.
Je leur ai fait comprendre simplement qu'il ne faut pas qu'ils paniquent. Ils n'ont qu'à prendre le temps de lire correctement le sujet et avant d'y aller, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et de toute façon, ce sur quoi ils sont interrogés, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu en classe. Alors il faut éviter absolument toute forme de tricherie parce que les surveillants veillent au grain. Et de toute façon, si vous êtes pris, on vous met purement et simplement au dehors et vous avez échoué avant même d'avoir entamé le BTS. Donc ça ne sert à rien parce que je signale que avec le président Ouattara, ce qu'on demande aux apprenants, c'est l'excellence.
Avant le démarrage de ces compositions, des informations tendaient à faire croire que 3000 candidats ont été exclus du BTS 2023. La réponse de professeur Adama Diawara.
Non, ils ne sont pas 3000, loin de là. 3000, c'est super exagéré. Ils sont 1327 exactement. Dans les 1327, je signale qu'il y a 1113 faux bac, 19 faux BT, c'est-à-dire brevet de technicien. Et le reste, c'est soit des faux certificats d'inscription en année préparatoire, soit un nombre insuffisant d'années de préparation du BTS. Donc, en fait, tout ce lot-là a été exclu.
Les épreuves pratiques sont prévues pour se tenir du 8 au 12 août. Les résultats, quant à eux, sont attendus pour le vendredi 1er septembre 2023.
En bref, hier lundi 31 juillet 2023, la communauté africaine a célébré pour la 61e fois la journée de la femme africaine. Cette journée offre aux femmes d'Afrique un cadre d'échange avec leur gouvernement sur les contraintes majeures à leur bien-être et au développement du continent. À ce titre, l'Organisation panafricaine des femmes a invité les pays membres à créer l'opportunité d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de l'égalité des sexes et d'intensifier les débats sur les droits de la femme et le développement du continent africain. Ressources halieutiques à présent, un atelier de renforcement des capacités destiné aux pros
professionnels de la chaîne de valeur de la pêche artisanale, aux acteurs des institutions nationales en charge du genre, soutien en ce moment à Jacquesville. Jean-Claude Mabé a été à l'ouverture des travaux. Voici son compte rendu.
Que vise la FAO à travers cet atelier? La réponse avec Marie-Hortense Guéhi, assistante au programme de cette agence onusienne.
Dans le domaine de la pêche, on constate que les femmes ne sont pas vraiment totalement dans le maillon. Certains hommes ne sont pas aussi dans le maillon. Nous voulons atteindre une certaine équité pour que hommes et femmes puissent prendre leur part dans la chaîne de valeur de la pêche.
Spécialiste en genre et développement et formatrice de cet atelier à Siennan, Juliette revient ici sur l'importance de la prise en compte du genre dans la gestion de la pêche artisanale.
La pêche est une activité masculine. C'est rare de voir des femmes piroguées aller en mer pour pêcher. Mais la post-capture, les femmes entrent en ligne de compte. Ce sont elles qui font le mariage, la transformation, la commercialisation à 90%, sinon 95%. Donc on ne peut pas réfléchir à des politiques pour la pêche sans intégrer hommes et femmes dedans.
Quelques attentes de participants. Eliane Zogo, présidente de la coopérative Comapsi du débarcadère de Locodro, et Graluc Alain, président des marailleurs du débarcadère de Sassandra.
Ici en Côte d'Ivoire, il y a une inégalité au niveau de la pêche parce que la pêche est pratiquée seulement par les hommes et on essaie. Pourquoi ?
En Côte d'Ivoire, les femmes ne pratiquent pas la pêche. C'est la culture de la Côte d'Ivoire qui a instruit ça comme ça. Dans les autres pays, au Cameroun, au Gabon, ça arrive. Si la FAO pouvait aider les femmes.
C'est une quinzaine d'acteurs et actrices du secteur de la pêche artisanale qui participent à cet atelier.
Une cérémonie de commémoration en hommage aux militaires disparus s'est déroulée au Monument aux Morts à Daloa et cette célébration avait pour thème Jeunesse ivoirienne et force de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Le colonel-major Fofier Kwaku, commandant la 2e région militaire de Daloa, a appelé la jeunesse ivoirienne à se souvenir des sacrifices consentis par les aînés pour bâtir la Côte d'Ivoire et à maintenir une relation de confiance avec l'armée. Compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Le colonel-major Fofier Kwaku Martin, commandant de la 2e région militaire de Daloa, a saisi cette occasion pour expliquer le choix du thème de cette célébration avant de réaffirmer la loyauté des forces armées de Côte d'Ivoire.
Ce thème signifie pour nous militaires une invite à une relation fusionnelle avec la jeunesse ivoirienne qui constitue l'avenir de notre pays. Je voudrais réitérer la détermination des forces armées de Côte d'Ivoire à demeurer cet instrument capable de protéger les ambitions de notre pays.
Le secrétaire général de préfecture, Yaya Bamba, a demandé aux militaires de tout mettre en œuvre pour garantir la paix et la cohésion sociale.
Abnégation et sens élevé du devoir incarnent donc notre armée. Oui, vous êtes des soldats de la paix et de la cohésion sociale. Oui, vous exercez une mission noble, parfois au péril de votre vie. Je vous exhorte donc à poursuivre dans la quête perpétuelle de l'excellence pour le maintien de la paix.
Le secrétaire général de préfecture, Yaya Bamba, a en outre demandé aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité de prendre les dispositions pour assurer la sécurité et garantir le bon déroulement de la fête de l'indépendance ce 7 août dans le Haut-Sassandra. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Oui, Jean-Noël Kwame, autre célébration cette année pour les 63 ans de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain. Vous l'avez dit, il y aura la veille un match de gala de football entre les 49 militaires ex-détenus au Mali et à la jeunesse. Ce sera à Grand Bassam où aura lieu le lendemain la cérémonie officielle de cette fête compte rendu signé Mata Touré.
Un match de gala opposant les 49 militaires ivoiriens et ex-détenus au Mali et les leaders de la jeunesse ivoirienne est prévu dans la soirée du 6 août prochain, la veille de la célébration de l'an 63 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance à Grand Bassam, au lycée d'excellence de la ville balnéaire. 4000 jeunes Ivoiriens seront mobilisés. Mamadou Touré, le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique.
Avant donc la cérémonie officielle du 7, nous avons décidé du 5 au 6 de maintenir ce nombre d'activités. Donc à Boaké, à Daloa et à Korogo, où on a quand même donc des camps militaires, il y aura dans ces villes-là, le samedi 5, et donc des matchs de gala entre les jeunes de ces localités et l'armée ivoirienne.
Rendez-vous donc à Grand Bassam le 7 août prochain. Il y aura un défilé conjoint armée-jeunesse. Un défilé qui va mobiliser près de 2000 soldats et 720 jeunes issus des services du centre civique et de certains établissements d'excellence et d'écoles de formation comme l'École nationale d'administration, l'ENA. Des actions citoyennes seront posées par ces jeunes le 6 août prochain, déjà à Grand Bassam, avec le nettoyage de la place de Grand Bassam, le dépôt d'une gerbe de fleurs en mémoire aux victimes de l'attentat terroriste perpétré dans cette ville en 2016 et le nettoyage de l'hôpital général. Enfin, un concert est prévu dans la soirée d'ici août prochain, toujours à Grand Bassam. Auparavant, une marche au flambeau sera organisée par l'armée et les jeunes.
Dans l'actualité internationale, les juntes militaires, les juntes burkinabé maliennes et guinéennes mettent en garde contre toute intervention militaire au Niger. Les trois États dirigés par des militaires ont averti qu'ils s'opposaient fermement à une éventuelle intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un punch. Eh bien, les deux premiers affirment dans un communiqué conjoint qu'elle serait assimilée à une déclaration de guerre à leur de pays. Cette mise en garde survient au lendemain de la menace d'usage de la force proférée par les dirigeants ouest-africains qui ont également arrêté de nombreuses décisions, dont la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre ces États membres et le Niger. Décryptage des décisions prises avec Arthur Banga, docteur en relations internationales et en histoire des stratégies militaires, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ah, Bidichan, l'écoutant.
Plusieurs fois, se féliciter de la réaction rapide de la CEDEAO et de la fermeté de ses décisions. La fermeté de ses décisions traduit d'abord l'agacement de la CEDEAO et sa volonté d'en finir avec cette contagion de putsch. Agacement parce que la CEDEAO a essayé d'être, dans les trois premiers cas, Mali, Burkina, Guinée, d'être relativement compréhensible en se disant qu'il ne fallait pas punir les peuples, il fallait accompagner les jeunes à ramener rapidement notre constitutionnel. Mais ça n'a pas dissuadé et donc d'aujourd'hui, lui, il est agacé, veut montrer plus de fermeté. Et fermeté parce que le coup d'État au Niger ne s'explique par rien, rien de concret, rien de solide, à part un égoïsme d'un général. Et donc, face à ces questions, la CEDEAO a décidé d'être alerte, ferme. On espère justement qu'elle pourra porter cette fermeté pendant toute la crise.
Est-ce que ce n'est pas aussi un tournant important pour la CEDEAO? Si on peut parler d'échec de la CEDEAO dans le cas de la Guinée, dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina Faso?
Moi, je suis bien d'accord avec vous. Peut-être que le mot échec est fort, mais là, on est sur un vrai tournant. Si la CEDEAO veut que l'idée de coup d'État sorte carrément de son espace, elle doit réussir à ramener, à réinstaller le président Bazoum au pouvoir. Parce que si elle échoue dans cette mission, plus personne n'aura peur de la CEDEAO, et c'est-à-dire que tous les putschistes, tous ceux qui auront l'envie de faire un coup d'État, la réussite de faire pourront s'installer sans les craindre.
Arthur Banga, docteur en relations internationales et en histoire des stratégies militaires, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, a été joint par Désiré Gapina Ouattara. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Francis Cassi. Bonjour Francis.
Bonjour César, bonjour à tous. Entamons notre revue des titres des journaux de ce mardi par les prochaines élections locales. Municipales et régionales, le pays se dirige encore vers des élections à risque. Titre à ce propos, le Bélier. Pour le jour plus, élection du 2 septembre, près de 100 candidatures au régional et 1000 au municipal enregistrées. Mais selon l'Inter, municipal et régional 2023, tout s'accélère aujourd'hui. Les candidats retiennent leur souffle. Avant que, sur ce même sujet, Fraternité Matin ne termine ainsi. Sécurisation des municipales et régionales, Vagondo joue la carte de la fermeté. Autre info, c'est le constat du titillement entre le RHDP et l'opposition, se lisant à la une de certains quotidiens. Notamment Fraternité Matin qui, au sujet du secrétaire exécutif du RHDP, écrit « Retour du PDCI-RDA, partenariat avec le FPI, sort des indépendants, Cissé, Bakongo, sans langue de bois. » Quand le Matin attaque ainsi, en panne d'arguments et sans projet de développement, l'opposition propose le tribalisme et la xénophobie aux Ivoiriens. Mais le Bélier intrépide lui rétorque ainsi. Municipal et régional 2023, l'opposition trouble le sommeil du RHDP. Ce sur quoi renchérit le nouveau réveil relatant. Depuis, Mbayakro, Alaa Kouadio recadre les propagandistes du RHDP. C'est le PDCIRDA qui a créé les conditions du développement. Et puis, terminons notre revue des titres des quotidiens de ce jour par l'actualité dans le sillage du coup d'État mercredi dernier au Niger. Au sujet des sanctions de la CEDEAO contre ce pays et son ultimatum contre les militaires putschistes, la Nouvelle Alliance titre « Les graves erreurs de la CEDEAO ». Idem pour Génération Nouvelle qui apprend. Menace d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée apportent leur soutien au Niger. Merci et bonne lecture de vos journaux. Et
merci à vous, Francis Kassé, pour la revue des titres des journaux ivoiriens du jour. À présent, l'invité de la rédaction sur Adam Soir, professeur Mamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Il porte ici son regard sur le deuxième sommet Russie. Voilà, sommet Russie-Afrique, n'est-ce pas, avec un accent évidemment sur les retombées attendues du dit sommet pour les pays africains entretiens.
Bonjour, professeur Bamba Abdoulaye.
Bonjour, monsieur Soro Adams.
Ouvert le 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique, le deuxième du genre, a pris fin le vendredi 28 juillet 2023. Professeur Bamba Abdoulaye, vous avez suivi de bout en bout cette rencontre. Que retenez-vous précisément?
Merci, M. Soro. Je retiens que c'est d'abord la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. La première s'est tenue en 2019. Cette édition a réuni une quarantaine de délégations africaines. Et je dirais aussi, si je m'en tiens aux propos des différents participants, à la bonne organisation de cette édition et surtout à l'opération de charme de la Russie à l'endroit des pays africains, notamment ceux qui ont été séduits burkinabés et maliens, mais en tout cas, la volonté de la Russie d'être de plus en plus présente en Afrique et de faire comprendre aux Africains que désormais, ils peuvent compter sur la Russie. En termes de leçons à retenir également, je retiendrai les discours des présidents maliens et burkinabés qui ont prononcé des discours de rupture, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux autres chefs d'État, qui était dans une logique de coopération et de modération.
Et autre chose?
Autre chose, il y a aussi des intentions qui ont été manifestées au niveau des différents accords et des intentions d'accords signés de façon bilatérale entre la Russie et ses pays. Certains champs de coopération ont été balisés. On attend maintenant les années à venir pour voir quelle sera l'adéquation entre ces promesses et la réalité sur le terrain. En tout état de cause, la Russie sort ses griffes. Maintenant, que valent ces griffes sur le plan économique, sur le plan financier? Ça, c'est une autre paire de manches.
Et dans ces conditions, le bloc occidental a-t-il des raisons de s'inquiéter de cette avancée de la Russie?
Ben oui. Ben oui, absolument. D'autant plus que au moment où se tenait ce sommet, on a assisté à un quatrième coup d'État militaire. C'est une ex-colonie française, le Niger. Et du coup, on a l'impression donc qu'il y a un effet de contagion dans la sous-région ouest-africaine. Et donc, il y a des raisons de s'inquiéter, il y a des raisons de prendre le taureau par le corne. Je ne dis pas forcément que la Russie s'amène dans ce coup d'État, mais je dis que quand vous voyez l'affinité entre Poutine et les putschistes au Mali et au Burkina, on a l'impression que ceux du Niger, en voyant les condamnations du côté de l'Occident, vont aussi se rapprocher de la Russie, qui naturellement et normalement va les accueillir les bras ouverts.
Et donc, sommet Russie-Afrique, l'Afrique gagnera quelque chose?
Vous savez, sur cette question, j'ai une position, que ce soit sommet Russie-Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique, États-Unis-Afrique, Inde-Afrique, Japon-Afrique, j'ai une posture. Il faut savoir que ces sommets sont organisés par ces puissances pour d'abord consolider leurs acquis et puis concéder quelques acquis aux Africains. Il appartient maintenant aux Africains de chercher plutôt, au lieu d'attendre des choses de ces pays, de plutôt tirer les choses de ces pays, imposer certaines choses à ces pays pour que ce ne soit pas des répétitions des sommets bis, ce soit plutôt des sommets dont les portées sont réelles dans le quotidien des Africains. Il ne faut pas que ça se limite au niveau du sommet, il faut qu'au niveau de la base également, ces populations ressentent les dividendes de ces sommets-là. Donc il appartient aux Africains d'être beaucoup regardants sur les dispositions qui ont été prises et de veiller à leur application pour qu'au troisième sommet, au moment de faire le bilan, on se dit, ben voilà ce qui a été dit au second sommet et voilà ce qui a été fait entre les deux sommets. Voilà un peu ma position sur les différents sommets que les puissances organisent avec le continent africain.
Et donc, en conclusion, que conseilleriez-vous aux États africains?
D'abord, je ne vais pas leur déconseiller d'aller dans les sommets avec les puissances. Vous savez, la coopération bilatérale et multilatérale est importante. Mais j'ai dit, il faut que l'Afrique comprenne que son développement, son bonheur, son épanouissement, son avenir dépend des Africains, dépend de la volonté des chefs d'État, dépend de la volonté politique et dépend surtout des initiatives que nous allons prendre en nous appuyant, comme je dis toujours, sur nos réalités. Les solutions venues de l'extérieur ont déjà montré par le passé leur inefficacité. Oui, au sommet, mais il ne faut pas penser que ces sommets-là vont propulser l'Afrique au devant de la scène internationale en faisant du continent africain ou des pays africains, des pays développés. Notre développement dépend de nous-mêmes, M. Soro.
Je vous remercie, professeur Bamba Abdoulaye.
Merci, M. Soro.
Bonne journée, professeur.
Merci, M. Soro.
Voilà, professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cocody était avec Soro Adams dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des titres. Les épreuves écrites du BTS 2023 ont démarré hier lundi au lycée classique d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Adama Diawara a demandé aux candidats la sérénité tout en les invitant d'éviter toute forme de tricherie. À Daloa, dans le Haut-Sassandra, a eu lieu une cérémonie de commémoration en hommage aux militaires disparus. Au cours de celle-ci, il a été demandé à la jeunesse de se souvenir des sacrifices consentis par les aînés pour bâtir la Côte d'Ivoire et à maintenir une relation de confiance avec l'armée. Enfin, dans l'actualité internationale, les juntes burkinabé, malienne et guinéenne mettent en garde contre toute intervention militaire au Niger. Et c'est la fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.